vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Émission numéro 8. Exilé du droit et du tordu. Chers amis, bonjour! Est-ce qu'on dit réfugié ou immigré ou demandeur d'asile ou exilé? Alors, vous savez, il a eu sa photo dans les dernières nouvelles d'Alsace. Il a été interviewé à la télé quand la LICRA a célébré ses 50 ans à Strasbourg. Vous voyez de qui je parle? Alors lui, il a 25 ans, mais vous l'avez bien connu parce qu'il était partout. Il est partout, comme ne l'aurait pas dit Brasillach. Je l'ai revu hier soir. Il avait un bouquin sous la main, ça s'appelait « Droit d'exil » d'Alexis Nuss. Alors, on parle d'asile, droit d'exil, élixir. Bon, alors il me raconte son histoire. Incroyable. Pleine de rebondissements, de hasards, de coups de bol, de peur, de morts noyés dans la Méditerranée et d'une histoire d'amour sur le bateau qu'il avait repêché. Alors je suis tout écoute et je me dis, ce type est un menteur. Je suis bluffé d'admiration. Un exilé. Est-ce qu'il faut croire ce qu'il raconte? Ceux qui délivrent les cartes de séjour vous disent qu'il y a toujours une présomption de fraude. Et pour être un exilé heureux, vous passez devant un juge. Se pose alors la question de la preuve et de l'intime conviction du donneur de visa. Et vous qui l'avez si bien connu, vous avez trouvé qu'il était très sympathique? Moi, je pense que la recherche de la vérité n'a aucune importance pour un exilé. Alors, nous avons 4 invités autour de la table. Léa Renaud, vous qui êtes rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile. En tant que juge, est-ce que la vérité a du sens?
Ambroise, est-ce que simplement votre question a du sens? Est-ce qu'elle a un bon sens, un mauvais sens, un contresens? Ma foi, une mauvaise direction est aussi un bon sens ou un mauvais sens, ça dépend du point de vue. Mais pour en revenir à la question de l'exil et de l'expatriation, de l'immigration, la vérité, c'est plus une question de point de vue, là encore. Et je crois que concernant ce monsieur très particulièrement, que vous l'avez vu hier, moi je le verrai demain, mon intime conviction est que lui, il a toujours dit la vérité. Aussi incroyable ces histoires soient-elles, à mon avis, c'est la vérité.
Alors le témoin a dit la vérité? Oui, non, peut-être. Non. Alors, justement, il nous a quand même raconté son histoire de bateau. C'est terrible. Alors, nous avons un pirate d'eau douce dans le studio, Tlaloc Linder. Sur les bateaux, parfois, vous voyez des gens, ou est-ce que ce sont des mirages, ou est-ce que ce sont juste des bouées oranges, ou comment ça se passe?
Des gens, il y en aura toujours. Je pense que l'important, c'est de louvoyer entre les eaux et de savoir profiter du vent quand il y en a. En réalité, je n'ai qu'une référence dans ce domaine, c'est Léon Trotsky qui disait que la vérité était toujours révolutionnaire. Or, dans une révolution, qui a tort, qui a raison? Ceux qui ont raison, c'est les progressistes. Donc, à partir de là...
Et qui tortue, bien sûr.
Il faut trouver l'île, mais oui. Vous savez, dans le Sungo, les îles, il n'y en a pas des masses.
Oui, alors, parce que l'astuce du titre, c'est François Mitterrand qui avait deux ministres, il disait Robert Badinter pour le droit... Et Roland Dumas pour le tordu, parce que justement, lui ne disait pas toujours la vérité, mais c'est ce qui le rendait très sympathique. Alors, quelqu'un d'autre qui ne dit pas forcément la vérité, et c'est pour ça que c'est très intéressant, ce sont les commerçants. Et nous avons un marchand de meubles ici, Georges Federman, très connu sur cette antenne. Il est retraité de chez Monsieur Meubles et vous êtes un spécialiste de divan. Pour vendre un divan, est-ce que vous dites la vérité ou alors vous racontez des fadaises « Ah, c'est le dernier, il faut que je vide le camion, vous avez 50% de réduction ».
J'ai un truc irrésistible.
Oui.
Ça marche à tous les coups. Pour moi, la vie va commencer sur le divan de Monsieur Meuble. Avant que tu déménages, essaie de vivre sa satiété. Avant de passer à la CNDA, juste un
la
truc.
La CNDA, en, c'est
la Commission nationale du droit d'asile.
Ah oui, oui, hein? Oui, bien sûr. Non, non, mais je et croyais en fait, que c'était Conforama. Et non, non.
Eh bien, c'est pas éloigné, oui, cher Ambroise.
On ne fait pas de publicité, bien sûr. Non, ouais. mais franchement, vous baratinez les clients.
Alors, toujours, mais c'est la vérité. Ah. En tout cas, les clients l'accueillent comme une vérité parce qu'ils ne se posent pas la question de l'espace entre la vérité et le mensonge. Ils sont dans la vie. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, Claire, je crois. Hein?
Non, Léa.
Léa, excuse-moi. Hein? Ah, Léa, c'est encore plus beau dans la
allez,
tradition.
Allez, Léa, allez, les vers, allez.
Léa.
Aléatoire.
Léa et Jacob, c'est la première femme de Jacob, voilà, avant Rachel. Alors oui. La question de que tu posais à Léa, elle n'a pas de sens. Ça veut dire qu'un mec comme celui que tu as rencontré hier, le fait qu'il soit debout, incarné, c'est la vérité. Et le fait de le pousser à aller devant la CNDA, c'est une posture totalitaire, absurde et incompréhensible pour moi. Alors c'est très sérieux, après à Auschwitz. C'est complètement à la masse qu'un État dit démocratique comme la France impose à des pauvres mecs et à des pauvres nanas qui sauvent leur vie de passer devant un tribunal. C'est incompréhensible. Je suppose que c'est de l'humour.
C'est vrai que dit comme ça, oui, c'est... Oui, oui, Raymond Devos, mais non, franchement, non, c'est,
oui.
Bon, c'est vrai. Mais alors, bon, c'est quand même une histoire de vocabulaire, de mots, et comme une image est étymologue.
Alors, c'est exact.
Des textes, voilà. Alors, on dit « au début était le verbe hein, ». Je ne sais pas si ça est valable dans toutes les religions, mais... au début était l'exilé qui vient, parce que nous sommes tous des héritiers de l'Afrique. Hein. Lucy, In the Sky with Diamonds, elle était africaine et c'est notre arrière-arrière-grand-mère à tous. Est-ce que l'étude du langage peut permettre de voir si les choses sont vraies ou fausses ?
Ah bah, complètement, oui. C'est le langage qui exprime la vérité au-delà de la personne qui va l'exprimer avant lui. Si on prend l'exilé... Voilà, si on décompose, il y a ex de l'extérieur et on a il. Un exilé, c'est quelqu'un qui est parti sur une île. Et quand on est sur une île, on est heureux. Et quand on est heureux, on ne ment pas.
Oui, mais quand même, si on est tout seul sur une île comme Robinson Crusoe, on peut raconter des bêtises. Attendez. Je crois qu'il y a mon téléphone qui sonne. Oui, j'avais laissé mon téléphone ouvert. Excusez-moi, Côme. Allô ?
Oui, allô, Ambroise, Armel. Je te dérange pas, j'espère.
Non, 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 tu es en train d'écouter l'émission.
Ah bah, bonjour tout le monde.
Bonjour. Tu es où ?
Bah là, je suis sur mon bateau. Tu sais, je t'avais dit que j'allais t'appeler quand il serait là.
D'accord.
Quand il serait enfin monté. Là, on vient de partir du port. Je me suis dit que j'allais passer un coup de fil.
D'accord, bah c'est très sympa. Et alors, est-ce que sur un bateau, on se pose des questions existentielles comme ça, être ou ne pas être, mon royaume pour un océan, mon cheval, non ?
Ça dépend surtout de la durée du trajet, parce que effectivement, si jamais c'est un trajet qui dure plusieurs mois, bah, on a le temps de se poser pas mal de questions. Donc effectivement, au début, on se demande ce qu'on va manger, puis après, une fois qu'on a mangé tous les passagers, ben on se demande ce que c'est la vie, la mort, tout ça. On relativise pas mal sur un bateau, en réalité. Ouais.
C'est comme une petite vie à part.
Ah, tout à fait, bien sûr. C'est oui, tout à fait. Et puis si vous demandez aux marins que vous croiserez dans un port, il y a 80% de chances qu'ils soient beaucoup trop ivres pour vous répondre. Mais pour les 20% qui sont encore un tant soit plus lucides, oui, bien sûr, ils auront vécu plusieurs vies. Oui, ça c'est évident.
Eh bien, merci Armel pour ce petit coucou en cours de route. Pourvu,
avec plaisir.
Pourvu qu'on ait l'ivresse, mais il y a d'autres vers de Baudelaire qui dit l'ivresse...
Enivrez-vous.
Enivrez-vous. Vous pouvez le réciter ?
Non, mais je pense au capitaine Roberts, qui était un de mes confrères à la grande époque de la piraterie antillaise, parce que je n'ai pas toujours été sur les bords de l'île, hein, faut pas croire, je suis marin d'eau douce maintenant, mais je fus jadis un grand et éternel pirate, et tant et si bien éternel que je suis encore là. Donc comme disait le capitaine Roberts, qui ne buvait que du thé, l'important... Je ne le dirai jamais assez, c'est de savoir louvoyer et de raconter la bonne vérité au bon moment, à la bonne personne.
Voilà. Alors, enivrez-vous de mots, de poésie et de plein de bonnes choses. Mais quand même, quand on est dans un tribunal, on ne s'enivre pas comme ça. Ce sont des choses sérieuses.
Oui, bien sûr. Dans un tribunal, il est assez difficile de venir enivré. Peut-être boire du thé serait plus approprié. Et je rebondis tout de suite sur votre remarque. En effet, la bonne vérité racontée à la mauvaise personne n'est finalement peut-être pas une vérité.
Oh là là, on c'est devient très sérieux. On fait de la philosophie.
Nous sommes au tribunal.
Mais là, oui. Alors, si on cherche le mot vérité, il y a vert.
Bon, et il y a thé.
Et il y a thé, voilà, thé, on retrouve.
On le verre dans un verre, le verre,
oui.
IT.
Oui, alors on ne fait pas de publicité pour la municipalité. Ça, non, mais verre, oui, c'est ça. Et le I, alors
Le I, c'est l'ancienne racine du E. Mm-hmm. Le E qui lui-même, quand on y met un accent et une particularité de cette langue française, le E qui d'ailleurs cause beaucoup de tort, sachez-le. C'est-à-dire que les personnes qui ont un E dans leur nom ou dans leur prénom, très souvent, eh bien, ne le voient pas. Hein, car le E dans l'informatique de nos jours, eh bien, c'est une lettre qui n'est pas généralisée. C'est-à-dire que le E n'existe pas chez les Anglais. Et donc, c'est pour ça qu'avant, le I, bah, il était bien mieux.
Ah, mais le I aussi, dans tout l'alphabet, si on regarde les 26 lettres comme ça sur une seule ligne, c'est un truc tout droit avec un point dessus, un chapeau. C'est l'homme qui se redresse, c'est l'exilé qui a une fierté et qui, non pas parce que ça fait 3 ans ou 6 ans qu'il est là, il va dire « je suis Alsacien, je suis du Bas-Rhin, je suis du Haut-Rhin, je suis du Songo, je suis de l'Outre-Forêt », mais il dit « je suis un I, je suis un I ». Et donc, même s'il est basané, ou s'il a un aspect asiatique, ou africain, ou mexicain, ou aztèque, on lui demande « Tu es d'où ?»« Ah, moi, je suis de Wissembourg. »« Ah bon ?»« Non, mais pour de vrai, hein, le fameux « pour de vrai hein, », t'es arabe, t'es marocain, t'es turc et tout. » Ben non, je suis né à Wissembourg.
J'ai connu des Mongols qui n'avaient pas ce genre de problème. Hein.
Non.
Ah, dans une... un bateau, une jonque, encore dans une autre vie avant la grande piraterie antillaise. J'étais dans l'équipage de Shin Chi, la grande pirate qui dirigeait 400 navires, ne l'oublions pas. Et évidemment, on avait parfois maille à partir avec certains Mongols dans d'autres équipages, d'autres flottes. Mais quand vous tenez en compte les chants de marins, hein, et que les Mongols chantent en chant diphonique, le E et le I sont reliés par l'harmonique. Et même le U d'ailleurs. Le U qui est un double I rapproché.
Finalement, oui. C'est un couple, le U.
Tout à fait.
Voilà. Et alors le W, là, je demande à Georges, ce serait quoi ?
Quand je vois passer un bateau, j'ai envie de me foutre à l'eau et d'enjamber le bastingage pour aller voir... au-dessus de l'eau, le W d'Ambroise. Alors, W, je sais pas.
À cause de Wissembourg.
Oui, probablement. Voilà.
Les oiseaux, tous les bateaux, tous les soleils. Ça, c'est Michel Polnareff. On pourrait, mais on ne l'a pas préparé
alors,
pour l'émission.
W d'Ambroise, je ne peux rien dire, mais le I m'inspire.
Ah.
Le I, c'est une lettre juive. Ah. Alors, on est ici dans un temple du judaïsme et de l'intelligence. Le I, c'est l'incarnation.
On est dans un temple où l'on s'amuse et on essaye de faire des références littéraires.
Ah,
alors,
okay.
Mais vas-y.
Alors, le I, pour moi, c'est le juif. Alors, le juif dégenré, hein, parce que quand on dit le juif, on pense à la juive aussi. complémentairement.
Et à la Juventus. non, parce que c'est bientôt la Coupe du Monde de football.
Je sais pas Juventus de Pogba ou non. Lequel Mathias.
Voilà. Donc,
il ne faut pas déraper. Et alors, le juif ou la juive, c'est celui qui, par son incarnation et sa posture, interroge le monde. Pirate compris. Mmh. Et donc, ça me renvoie à la valeur numérique en hébreu du mot Adam, l'homme, et de la question « ma ». Donc peut-être que ta question et le sujet de l'émission, c'est quoi ? C'est pas la vérité ou le mensonge, mais c'est quoi ? « Ma » en hébreu, la même valeur numérique que « Adam ».
Oui, mais alors, non, mais le thème de l'émission, c'est de se souvenir de ce monsieur, enfin, je veux pas dire cet ami que j'ai revu hier soir, et qui aimerait bien qu'on se souvienne de lui. Et bon, certains d'entre nous l'ont bien connu. Je me retourne vers Côme. Je ne sais pas, si tu le recroisais dans la rue, tu le reconnaîtrais ?
Oh, moi, je ne l'ai pas vu depuis une éternité. Mais s'il y avait bien quelque chose qui m'a marqué chez lui, c'était son nez. Il avait un nez que j'aurais pu reconnaître entre des milliers. C'était un nez si caractéristique, à la fois bossu, mais lisse à la fois.
Et nuphar.
Mais nuphar, bah, oui. Si on pouvait lui donner un nom, ce serait bien celui-ci, oui, tellement oui. Il était grandiloquent et resplendissant.
Et était-ce un pic, un roc, une péninsule
Un truc à oiseaux.
Un rostan.
Alors. Oui.
Ou une rocinante.
Voilà. Ah. Oui. Alors, si Rano était là, que dirait-il ?
Je pense que si Rano était là, il recentrerait le débat.
Ah.
Parce que vous parlez de ce monsieur. Vous avez parlé de l'exilé droit comme un i, représenté par le i, être le i. Mais je pense que ce monsieur, c'est plutôt un y, voyez-vous. Plutôt tordu, l'exilé tordu. Et pour ça, pour cette particularité précisément, jamais on ne l'oubliera.
Oui. Oui, Léa. C'est...
Léa, en bas, je peux intervenir.
C'est comme Finnegan's Wake, mais parce qu'il a écrit Ulysse, ouais. Joyce, mais bon, là, on fait des rebondissements. Et Georges Perec.
Chanson à boire.
Non, alors, il y a un truc que Léa a évoqué, quand elle parle de tordu, ça touche l'essence du rapport à la spiritualité juive, puisque j'avais évoqué Jacob tout à l'heure. Jacob, quand il rencontre l'ange, il était tordu. Jacob, c'est le boiteux. Et il devient Israël. Donc, à un moment, le tordu, c'est la définition de l'homme. Ça veut dire que l'homme, il est par essence tordu parce qu'il est incomplet, il est insatisfait, il est mortel. Et donc, peut-être
mais
que ces mecs.
Mais il peut se faire battre par l'ange.
Alors, il est confronté à l'ange Ambroise. Il n'est pas battu. Il est transformé.
Les ailes du désir, par exemple, oui. Wim Wenders en haut. Et une autre référence, mm-hmm. Un livre formidable, Le combat de l'ange, de Jean-Paul Kaufmann, mm-hmm. Sur le tableau de la croix quand on rentre à Saint-Sulpice, à Paris. Mm-hmm. Et alors, il a réussi à faire 400 pages sur ce tableau. C'est génial. Je mm-hmm. vous recommande de lire ce livre. Il a une dizaine d'années,
oui,
mais c'est formidable.
Ambroise, c'est pas la peine d'aller voir ce tableau. Il faut rencontrer le mec dont tu parles.
Oui, c'est vrai.
Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que la rencontre avec l'exilé ne nous enseigne pas à devenir des hommes et des femmes ? C'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin de répéter, de prouver, d'illustrer, alors qu'en fait, la simple rencontre avec ces mecs nous enseigne à devenir moins mauvais hommes ?
Clalock, vous avez rencontré beaucoup de gens comme ça.
Bah écoutez, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de corsaires qui deviennent pirates, malheureusement trop peu.
Ah, et beaucoup. La différence entre un corsaire et un pirate. Louis XIV.
Louis XIV surcouf, évidemment, mais ces gens-là qui servent le roi servent-ils réellement les intérêts de la piraterie ?
Bah, c'est les intérêts de la France.
Mais la France n'est-elle pas une pirate gigantesque qui a loupé sa mission humanitaire ?
Non, la France...
La vraie piraterie se suffit à elle-même.
Non, mais la
Camarades,
France...
Camarades, frères et sœurs, qui vibrez au nom du drapeau noir, soulevez-vous et hantez l'île jusqu'au trépas des multinationales européennes.
Je rappelle que nous sommes en direct. Bien. Donc, corsaires et pirates, les pirates c'est pour eux-mêmes, le corsaire c'était pour
eux-mêmes,
le roi.
Pour la liberté, pour la véritable fraternité.
Non, ils ramenaient le trésor au roi.
Ah, les corsaires, oui
c'est ça.
Lettres de course et
voilà,
compagnie,
voilà.
Des traîtres.
Alors, est-ce qu'il y avait des gens qui comptaient les trésors qui rentraient après avoir attaquer les navires britanniques? Est-ce qu'il y avait une comptabilité officielle? Est-ce que dans vos archives au tribunal, vous avez encore les archives du 15e siècle?
Je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Hein. Le bon sens, le bon sens voudrait qu'après des prises, évidemment, il y ait vérification, comptage. Mais comme on manque parfois de bon sens, je veux bien croire qu'il y ait pu parfois manquer de vérification ou qu'il y ait eu des histoires de corruption. Ça me paraîtrait pas du tout impossible. Ceci dit, maintenant, il faudrait que j'aille un petit peu vérifier dans les archives et je pourrais vous dire à la prochaine émission.
La prochaine fois, voilà. Moi, j'aime bien ce mot corruption parce que il y a aussi la corruption de l'âme et la corruption des mots. Parce qu'en fait, les mots évoluent et cette espèce de glissement sémantique, comme on dit de façon intéressante, est-ce que c'est pas un truc passionnant, Côme ?
Ah, c'est totalement passionnant à étudier. Mais c'est également quelque chose qui est extrêmement compliqué. Car si je vous donne un mot, pourriez-vous me le corrompre, Ambroise ? Si je vous dis le mot piano, corrompez-moi le mot piano.
Il y a panneau satisfaction. Oui.
Panneau, exactement, panneau. Oui. Là, on est sur une corruption du premier type, c'est la corruption alphabétique, on enlève une lettre. Oui.
Non, le W.
Le W, c'est Georges Perec qui en a parlé beaucoup, mais ce sera pour une autre émission. Oui, alors
et,
oui, oui.
Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, tout de même, quelle lettre a-t-on enlevé ? On a enlevé le I. Et ce I, il faut bien savoir que c'est quand même une lettre qui est très à part, c'est une lettre à laquelle tout le monde revient. Et pourquoi ça ? Car c'est la 9e lettre. Et je vais vous dire quelque chose, cette 9e lettre, elle est toute particulière car elle est présente dans toutes les autres. Par exemple, Ambroise, si vous me donnez n'importe quel nombre, donnez-moi un nombre, n'importe lequel.
13.
13. Eh bien, 13, c'est très simple. Si je prends le 1, le 3, je les ajoute, ça fait 4. 13 moins 4, ça fait 9. Et ça fait I. Et ça, c'est quelque chose qui est universel.
C'est dingue, c'est de la piraterie.
C'est formidable.
C'est de la piraterie officielle.
Gardons cela en tête. C'est la fin de l'émission, mais c'est bien. Le I, la 9e lettre de l'alphabet. I. C'était l'émission numéro 8, vous l'avez bien connue, avec Léa Renaud, juge à la Cour nationale du droit d'asile, Georges Federman, retraité de chez Monsieur Meuble, spécialiste des divans, Tlaloc Linder, qui est un pirate d'eau douce, et comme une image, étymologue. Et au téléphone, Armel Milaescu, qui est capitaine de bateau. À la technique, Thomas Marinelli, c'était donc l'épisode numéro 8, exilé du droit et du tordu. On se retrouve tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. And my name is Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them.